C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Avec François, on a toujours vécu dans des grandes villes. Pendant le confinement, tout s'est arrêté. La ville a changé de visage.
Alors on s'est demandé si au lieu de fuir, il n'y avait pas quelque chose à faire. On a découvert que partout dans le monde, beaucoup de personnes se posent les mêmes questions sur l'avenir de nos villes et imaginent ce que pourrait être la belle ville de demain.
C'est ainsi que débute le film documentaire de Manon Turina et François Marquès, La Belle Ville. Un film proposé en ciné-débat par l'association FestiPlanète dans le cadre du Ciné-Planète. Un ciné-débat que je vous propose de retrouver aujourd'hui dans La Puce à l'Oreille.
On nous a fait voyager, hein, aujourd'hui, ce soir. On est passé de Mexico à Chicago, à Bruxelles, à Munich, à Paris, à Berlin. On est revenu à Chicago, on est allé à Milan, on est revenu à Paris. Donc on a fait un petit tour du monde. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'en commençant par Mexico, on trouve Pachamama. Cette expression de la terre, de notre terre qui nous nourrit et qui est essentielle. Dans les termes qui m'ont aussi fortement impressionnée, c'est l'histoire de changer de rythme. On se rend compte qu'avec le film, il faut changer de rythme, mais le jardin, c'est aussi un autre rythme de vie. Un moment où on prend du temps pour l'autre, on prend du temps pour regarder la nature, etc. Et quels que soient les pays, c'est vraiment cette idée-là.
Qu'il y a une lenteur dans l'image ?
Ah non, absolument pas. Même si on a des plans fixes, on est bien sur quelque chose de dynamique et on a du rythme. Et ça, c'est important. Un élément aussi qui m'a plu, c'est faire l'école dans la nature, parce que les enfants, c'est important. Et des enfants, on n'en voit pas tellement. On les voit au moment de cette école dans la nature à Bruxelles. Et puis, à un moment donné, il me semble que c'est en Allemagne avec des petits qui font du jardinage. Donc voilà, les enfants, ils sont aussi porteurs d'espoir. Et c'est ce qu'on voit malgré tout dans le film. Il y a aussi la guérilla jardinière. J'en avais jamais entendu parler. Et c'est vraiment... Alors, je ne sais plus quel est ce livre, j'ai honte, de cet homme qui, dans la nature, met des graines d'arbres pour que...
Giono,
oui, voilà. L'homme qui plantait des arbres. Donc, on est vraiment dans cette poésie, cette poésie-là. Et le jardin qui se réapproprie la ville, parce qu'à un moment donné, avant d'être la ville, c'était aussi notre jardin. Et donc ça. Et puis, le fait de voir évoluer la ville sur ces images de synthèse, au fur et à mesure, à chaque chapitre, on ajoute quelque chose. On est dans une ville qui évolue.
Le retour à la réalité, le droit de se tromper également. Attention, on ne peut pas aller trop loin. Avec d'un seul coup, il y a un contre-pied, il y a un point de bascule dans ce film.
Ah oui, et là, on se dit, on n'est pas chez les bisounours. On nous dit, on peut avoir plein d'idées, mais il y a parfois un retour à la réalité. L'hydroponie, toutes ces fermes, ok. Mais c'est à un moment donné, il faut aussi avoir les pieds sur terre.
Et pour débuter ce ciné-débat autour du film documentaire La Belle Ville de Manon Turina et François Marquès, c'était la vie éclairée de notre cinéphile Carole. Tout de suite, nous allons retrouver François Marquès, l'un des co-auteurs de ce documentaire invité par l'association FestiPlanète. François Marquès, c'est dur de revenir à Toulouse après ça ou... Il y a du plaisir à revenir.
Non, il y a eu du plaisir à revenir pour tout changer. Donc justement, comme on l'a dit un peu à la fin, c'est à notre retour, on voit tout ce qu'il y a à faire. Et on voit aussi, et on s'est beaucoup renseigné sur ce qui était en mouvement chez nous, à Toulouse et en France. Et on s'est ouvert à ça. On s'était quand même ouvert avant de partir. Et on voit qu'il y a des choses qui se font. Donc c'est assez positif.
Vous avez quel âge ?
J'ai 27 ans.
Vous faisiez quoi avant de faire ça ?
Alors avant de faire ça, moi j'ai fait des études dans le marketing, un peu comme c'est dit. J'ai travaillé 2 ans dans une station de ski, Je travaillais à l'année en tant que commercial dans une station de ski dans les Pyrénées françaises. Et on est parti à Londres avec Manon, donc elle, pour mettre un peu sa ligne sur le CV, moi pour apprendre l'anglais. Je parlais déjà espagnol, j'avais voyagé en Colombie pendant mes études, pendant un an. Et je voulais absolument parler anglais, que ce soit pour ma vie professionnelle ou personnelle. Et donc on est parti à Londres et je travaillais chez Decathlon. Et c'est vraiment à Londres, pendant le Covid, qu'on a eu cette prise de conscience. Et on avait envie de se bouger à notre échelle pour essayer de changer les choses. Donc c'était un peu une quête personnelle au début, qu'on a voulu au final partager à travers ce film.
Pourquoi faire le choix d'aller chercher au bout du monde ce que vous auriez pu illustrer de façon beaucoup plus proche? Pourquoi ne pas avoir fait l'enquête d'abord en France pour se dire, tiens, je vais faire un film où je vais m'intéresser quand même ce qui bouge sur les territoires, parce que c'est pas forcément, ou c'est que ce sont des modèles qui, véritablement, de par leur exemplarité, sont arrivés à un niveau supérieur de ce qu'on peut trouver chez nous.
C'est une remarque hyper intéressante. C'est vrai qu'on aurait pu faire un peu le même film, quasiment presque. Il y a toutes les initiatives qu'on voit dans le film qu'on peut trouver ou retrouver en France. L'idée, c'était d'aller voir aussi les grandes initiatives, celles qui ont quand même aussi pas mal de recul sur les solutions qu'on montre dans le film. Typiquement avec Ken, qui fait ça quand même depuis 40 ans. Je ne suis pas sûr que l'agriculture urbaine existe depuis 40 ans en Europe. C'est très nouveau au final. Très ancien et très nouveau. C'est vrai que c'est paradoxal parce qu'avant, on faisait de l'agriculture urbaine, on s'est arrêté et puis on le refait un peu et ça redevient à la mode. Mais c'était aussi voilà, voir un peu avec des personnes qui font ça depuis longtemps, leur regard grâce au recul qu'ils ont sur ces solutions. Et après, il y a des choses que franchement, on ne pouvait pas voir, notamment Milan qui composte à l'échelle d'une ville. Il y a deux villes pour moi aujourd'hui qui font ça, c'est San Francisco et Milan. Et donc ça, on avait à cœur d'aller voir et de comprendre, de discuter avec ces personnes qui portent ces mouvements-là. Donc je dirais que ouais, c'est pour ça. Et puis aussi de manière un peu plus cinématographique, c'était de montrer des grands projets qui donnent envie aussi, parce que typiquement à travers le voyage, on peut toucher des personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées par ce sujet. Et c'était un peu ça aussi, l'idée avec Manon, c'était peut-être à travers ce film, toucher des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à tous ces sujets environnementaux et toucher les jeunes surtout.
Des précurseurs dans le film, des chercheurs, des sachants, des savants, aucun politique, aucun maire, aucun bourgmestre. C'est un choix délibéré?
C'est pas un choix parce qu'on en a rencontré. On a rencontré une trentaine de personnes. Il n'y en a que 20 dans le film. On a notamment rencontré la ministre de l'écologie à Mexico City. Échange très intéressant. Et toutes ces personnes, en fait, ont nourri notre réflexion, mais ne sont pas forcément dans le film. C'était à la fois un choix aussi, pour être tout honnête, pour ne pas forcément prendre un parti pris politique. Et donc, ça, on serait rapidement, en fait, allé vers des gens qui portaient sujet, donc des partis écologistes. Et on voulait plutôt montrer ce qui se passe à l'échelle du citoyen, comment faire les choses aussi en collectif. Même les entreprises, on le voit avec Fernando, quand même, c'est à travers une entreprise qu'il a montée qui fait ça. Et sur le côté ville, on en parle un peu avec Milan, même si on n'est pas allé voir ces personnes-là. Et ils nous ont pas parlé de la façon dont ils s'organisaient. Mais on préférait pas mettre en avant une ou une autre personne, quoi.
Je sais qu'il faut faire des choix quand on fait un film. Choisir, c'est renoncer. On ne parle pas de l'habitat, on ne parle pas de la circulation. Ce n'est pas les deux grands absents de la ville, finalement, parce que la ville, c'est fait pour y habiter, pour avoir un toit, un logement, et pour pouvoir y circuler.
Complètement. En fait, on est parti vraiment sur le sujet de la ville. Et petit à petit, avec Manon, on a découvert que ce sujet-là de nature en ville, il répondait quand même à beaucoup de questions qu'on se posait et il apportait beaucoup de solutions aux problématiques qu'on avait identifiées. Alors c'est vrai, on aurait pu parler de mobilité, d'énergie, de la gestion de l'eau, on le mentionne un peu, mais on aurait pu aller un peu plus loin dans la démarche. Mais c'est vrai que ce sujet de reconnexion à la nature, il avait quelque chose d'un peu plus profond, de plus spirituel aussi. Et on s'est dit que si on mettait en avant un peu cette vision de parc urbain, en fait, complètement naturel, on allait un peu toucher un peu plus profond aussi les gens en se disant... Parce qu'on est complètement déconnecté en fait de la nature, nous en ville, on est complètement renfermé sur nous. Et donc voilà, ce sujet reconnexion à la nature, on se disait qu'il faut réapprendre à la connaître. Si on réapprend à la connaître, on va l'aimer. Et si on l'aime, on va vouloir la protéger. Et ça va ouvrir aussi un peu, les gens vont prendre conscience de tous les autres sujets qui touchent à la protection de la nature. Et même ce qu'il y a en dehors des villes. Et donc c'était un peu de ça, c'était de remettre la nature au cœur des villes pour que les gens... Se la réapproprie et se reconnecte à elle.
On pourrait végétaliser la place du Capital, la place Stanislas à Nancy, les grands places d'Arras. y a moyen de faire ça, ou alors, ben non, forcément, on peut pas toucher à ce cadre-là.
On pourrait le faire. Après, il y a tout un respect aussi de l'histoire, mais ça se fait de manière éphémère, souvent. Ouais. Après, est-ce qu'on est prêt à débitumer et effacer un petit bout de l'histoire pour végétaliser nos villes?
J'en connais quelques-uns qui sont prêts à enlever les pavés. Donc, on fait quoi sur un toit aujourd'hui?
Sur un toit aujourd'hui, on peut récupérer l'eau de pluie, on peut végétaliser et on peut mettre en effet des panneaux solaires. Et il y a la possibilité de faire les trois aujourd'hui.
Pas les trois en même temps?
Si.
On peut faire les trois en même temps aujourd'hui?
Ouais.
Ah ben c'est merveilleux.
Mais pas produire pour le coup.
No podemos trabajar en contra de la naturaleza pensando que la naturaleza nos va a retribuir cosas buenas.
Notre raison d'être, c'est de trouver des modèles économiques pour une agriculture urbaine, mais surtout pour une agriculture pleine terre, autour des villes.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé.
Aujourd'hui, retour sur le ciné-débat dans le cadre du Ciné-Planète organisé par l'association Festi-Planète à Douai autour du documentaire de Manon Turina et François Marquès, La Belle Ville. Et nous sommes avec Thomas Brembord. Thomas Brembord est à l'initiative du projet Écoland à Paluel. Il nous en parle.
Bonsoir.
Bonsoir. Tu viens de Paluel?
C'est ça.
T'as grandi où, toi?
Arras.
T'as voyagé aussi?
Un petit peu, ouais.
T'as été où?
En Australie pendant un an et un peu dans toute l'Europe via mes fonctions d'animateur, en fait, en gros, dans l'éducation un peu spécialisée et populaire.
Formation, c'est quoi, toi?
Formation animateur et moniteur éducateur, et ensuite sciences de l'éducation, hein, licence, master économie, et puis du coup, voilà.
T'as arrêté ou tu continues?
On démarre un projet de recherche là sur notre site, mais c'est le début, on prend notre temps.
Bon, on va parler de ce site. Alors c'est à Paluel, ça s'appelle Écoland, Paluel, les marais de la Sensée, une zone sensible. On parlait de biodiversité, et toi tu viens te planter là en se disant, par hasard, au début ça devait pas être là.
Ouais, c'est fait sur Arras, c'est marrant parce qu'en fait là on est le 31 et c'est ça fait 4 ans jour pour jour aujourd'hui, hein, ce soir.
Joyeux anniversaire.
Il y a beaucoup d'anniversaires, le premier coup de pelle, l'ouverture, et là c'était le Créaton, donc c'était un concours d'innovation avec le HFID, c'est un bout de la région en gros qui travaille sur l'innovation, et il y avait le Créaton, un concours du coup d'idées où c'était juste théorique. Et en gros, nous, on a proposé le projet Écoland, qui a pour but, en gros, d'avoir un site avec 3 pôles, un pôle de tourisme et de loisirs, un pôle pédagogique et un pôle de recherche. Et l'idée, c'est de partir d'une feuille blanche pour essayer de créer, entre guillemets, ou d'expérimenter, ou de commencer à chercher, parce qu'on n'a pas forcément les solutions, mais en tout cas, de voir tout ce qu'on peut faire au niveau d'une vie qui serait plus en accord avec la biodiversité, puis avec aussi nos rythmes internes, et puis mais ça sous les aspects. Donc on parle de la vie quotidienne, on parle de l'habitat, on parle un sujet super important qu'on nous trouve aussi, que je suis en train de regarder de très près, c'est au niveau de les composts et tout. Il y a les toilettes sèches qui rentrent aussi dans cet enjeu-là, parce que c'est des quantités phénoménales au final. Mais il y a des freins psychologiques énormes aussi chez beaucoup de personnes. Et du coup, on est en train de regarder comment on débloque les freins de manière fun et ludique, en fait.
Tant plus que toi, tu es installé dans un milieu qui, pendant longtemps, a subi ce qu'on appelait ludiquement l'habitat léger de loisirs, autrement dit, eh bien, des cabanes qui étaient là et qui étaient devenues parfois même des résidences à l'année. Toi, tu as dit, je vais faire du tourisme là-dedans, mais quelque chose de très responsable, un pôle de recherche, un pôle d'expérimentation avec le droit à l'erreur dès le début.
Ouais, en fait, en gros, l'idée, c'était d'avoir quelque chose qui parle aux non-initiés, en fait, qui parle, même pour ça, le nom Écoland sonne un petit peu vraiment tout public et qui attire les enfants, et c'est fait exprès. En gros, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de désirable, d'attractif, mais derrière, de proposer une vraie expérience, d'avoir différents niveaux d'engagement. Pour les gens qui sont complètement extérieurs à tout ça, ils passent juste un bon moment, ils expérimentent, ils testent, et puis ils repartent dans leur vie. Et après, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le pôle pédagogique, et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a le pôle de recherche, qui est une association, en fait, non lucrative, qui s'appelle Graines d'évolution, et avec laquelle, du coup, on démarre et on propose aussi des animations, mise en réseau, mais l'idée, c'est de travailler sur l'étude d'un mode de vie collectif et autonome basé sur les low-tech, donc l'inverse des hautes technologies.
D'accord. On peut dire que c'est un laboratoire social et écologique?
Oui, donc le sujet de recherche, c'est ça, c'est perspective de résilience au modèle thermo-industriel d'un point de vue technique et d'organisation sociale. Par contre, sur le côté social, il y a énormément à creuser. Hein. On est au début du quart, de la moitié du millième du début, parce que c'est un projet de société, en fait. Hein. Ouais. C'est très...
Ça se passe à Paluel. Il y a combien d'habitants à Paluel ?
800.
800. Est-ce que ce projet-là, on pourrait l'imaginer sous une autre forme, dans une ville, par exemple, aux alentours de 40 000 habitants ?
Ouh là là, l'idée, c'est de faire un petit échantillon, justement, avec... une dizaine d'habitants à l'année. Et en même temps, donc là, on est, ça démarre. On a deux parcelles habitées à l'année et il y a 7 gîtes insolites, donc différents, avec différents niveaux de confort et de budget. Et l'idée, c'est avec la recherche de pouvoir voir des gens qui seraient sous une expérience d'une nuit, de voir un petit peu leurs freins, leur niveau de confort acceptable, etc., et de comment mesurer aussi le fait qu'ils ramènent des pratiques et des usages dans leur vie. Donc là, il y a un sujet là-dessus. Et après, il y a un sujet chez les gens qui seraient investis de vivre de manière complètement alternative. Et là, de voir, de calculer les quantités d'eau, de production, etc. Et de relations humaines aussi.
C'est une cure de sobriété que tu proposes ?
Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, mais il faut le rendre fun, quoi. Ouais. Il faut le rendre désirable, il faut le rendre fun, sinon les gens n'y vont pas. Et du coup, c'est là où en fait on travaille, c'est là où en fait est le plus gros de notre boulot. C'est d'aller chercher les innovations, comme le Super Adobe, donc il y a une technique de construction à base de sacs de terre qu'on a réalisé. Du coup, c'est notre gros bâtiment principal, il fait 100 mètres carrés avec une terrasse sur le toit face au marais. Du coup, les gens ont envie de venir pour voir le coucher de soleil et puis prendre un apéro. Mais au final, ils se rendent compte que quand il y a des canicules comme cet été et puis sûrement l'été qui arrive aussi, en fait, il n'y a pas de clim et la masse thermique de la terre en fait fait que il y a 120 tonnes de terre en fait autour dans le bâtiment, dans la salle de restauration. Et du coup, il n'y a pas de clim et il fait peut-être 15 degrés de moins que dehors sans aucun problème. C'est par l'expérience, le ressenti qu'on peut peut-être faire bouger des mini freins.
Puisqu'on s'aperçoit, c'est que sur la terrasse, bon, la vue est magnifique, le coucher de soleil est fabuleux, et puis il y a petites bêtes qui viennent également parce que ça aime le sucre, et personne ne se plaint finalement d'avoir quelques mouches, quelques abeilles, comme ça.
C'est vrai, c'est vrai.
On se reconnecte également avec ça.
C'est vrai que oui, c'est plutôt bien perçu. Ouais.
Et quand tu accueilles, parce que maintenant l'été, il y a également des groupes de très jeunes qui viennent passer des moments. Alors quand je dis très jeunes, on est sur pré-ado et ado. À peu près. Comment on leur fait passer le message ? Vous allez venir passer du temps chez nous, on va vivre une chouette aventure, mais en plus, on va limiter vos consommations, qu'elles soient électriques, qu'elles soient d'eau pour les douches, pour...
Douches solaires, ouais. Après, même des plus petits...
Comment c'est vécu ? Quel retour tu en as, toi ? Avant de faire l'analyse sociologique qui viendra en temps et en heure, toi, comment tu le perçois ?
En fait, ça peut même démarrer plus petit. On peut faire des visites à partir de la maternelle, puis les activités ou même les nuits sur site à partir de 6-8 ans. Je limite, j'ai envie de dire, c'est plus simple avec les petits. C'est juste une façon de présenter les choses, par exemple, sous forme de jeu, Ecolanta, par exemple, l'enquêteur du vivant, pour aller chercher, faire des petites enquêtes, etc. Et d'essayer de mettre à l'échelle, par exemple, sur une distance donnée, l'histoire de la Terre et de l'humanité, et puis de voir l'effondrement de la biodiversité. Ça prend sens tout de suite en fait dans la tête des petits. Donc on est sur des dizaines de mètres et après nous sur l'effondrement, vous connaissez je pense le sujet, on est sur des échelles qui sont assez impressionnantes et du coup ça peut faire sens. Réellement ils sont très rapidement demandeurs. Hein. Même on a les douches solaires l'été, on a les douches classiques parce que pour des réglementations dans un lieu qui accueille du public, on doit avoir des douches reliées, etc. Même si on peut faire autrement, mais en fait il y a 5 douches solaires, les petits ils vont plus que dans les douches classiques, parce que pour eux, c'est plus fun, c'est nouveau. Ouais. Par contre, quand il s'agit de proposer que de dire qu'on ne nous servons pas de viande, ou alors c'est en option, des options carnées, à des gens qui viennent pourtant à Ecoland, certains adultes, ou la majorité de la population, je pense, ne font même pas les liens en fait, entre les impacts des usages et de la vie quotidienne, et en fait, ce pourquoi ils ne sont pas forcément d'accord, mais ils n'ont pas le... ça ne fait pas sens, parce qu'on n'a pas été habitué à ça, ou...
Ce qui est important pour toi, c'est que
déconnecté.
C'est justement que ces publics qui ne sont pas directement concernés viennent et repartent avec des réponses ou des questions.
Déjà une vision, une vision un peu, je sais pas comment dire, les deux en fait, hein, les deux, mais déjà En tout cas, sur place, chaque geste de la vie quotidienne, prendre un apéro, aller aux toilettes, en fait, chaque geste est proposé d'une certaine façon. Et en fait, pour des gens qui ne comprennent pas, on peut leur expliquer. Donc, il y a des espaces avec des explications, etc., sur les murs. Mais en fait, ça se passe beaucoup par le dialogue et beaucoup par l'esprit de la pédagogie. Et quand ça fait sens, en fait, après, ça semble logique, en fait.
Et dernier point, forcément, tout au maximum en circuit court.
Oui, bah, oui, on travaille avec uniquement les producteurs locaux. Et on produit aussi sur place, dans le jardin permaculture, pour l'été. Et même la terre du super adobe vient de Saint-Laurent. Elle a été excavée à 20 km. Ouais, on fait ça, on essaie de faire ça du mieux possible et puis d'embarquer un maximum de monde avec nous, que ce soit pour une journée, une après-midi, 2 heures ou plus, beaucoup plus.
Il y a 4 ans de ça, le projet commence à mûrir. Ça a ouvert quand ? Il y a 2 ans ? 2-3 ans ?
Juin 2021, l'ouverture. Ouais. Juin 2021, l'ouverture.
Tu as des chiffres de fréquentation aujourd'hui ?
Ouais, l'an dernier, on a dû faire 800 entrées, 300 nuits, 500, pour les groupes, 500 personnes. Et puis au bar, dans les 300-400, un truc comme ça. Oui, après, le but, c'est pas non plus d'être une usine.
Ouais, il y a des habitués. De toute façon, après, le lieu a des capacités réduites.
Il y a de la place pour faire plus, mais en fait, on ne veut pas spécialement faire un center park 2.0, entre guillemets, écolo. L'idée, c'est vraiment de développer le pôle recherche et d'avoir des prototypes d'habitats low-tech, autonomes, et de dire, par exemple, pour 20-30 000 euros, on peut avoir une maison complètement autonome, à base de terre, par exemple, ou qui répond à des normes de confort.
Avant de passer la parole à Yves, François, je me suis aperçu, vous avez filmé que pendant la belle saison, il n'y a pas une image d'automne, d'hiver, quand il ne se passe rien dans les jardins. Comment elles vivent, ces villes, pendant ce temps-là, qui sont végétalisées ? À quoi elles ressemblent ? Pourquoi vous ne l'avez pas montré ? Parce que vous n'étiez pas là-bas sur place ou...
Non, justement. Alors, c'est voulu d'y aller quand même à des périodes où c'était fleuri, joli, pour montrer quand même et donner envie, pour rendre cette ville désirable. Mais non, en fait, de par le projet, on est parti en mars 2021 et revenu en août 2021. Ça a duré 6 mois à peu près. Donc, c'est un peu les aléas. Et puis, Chicago, par exemple, c'était au début. Ils commençaient à planter, justement, et il faisait très froid. Et alors que 3 jours avant, à Mexico, il faisait très chaud. donc, et puis, d'un continent à un autre, ce n'est pas les mêmes saisons aussi, puisque c'est inversé. Mais ce n'est pas forcément voulu.
Every building should give 20% back of the entire envelope for green areas. I think we stand a reasonable chance to counterbalance the temperature development in dense urban cities.
Un autre avenir dans nos villes est possible. Des villes où la nature a une place, où elle nous fait respirer, nous protège, nous nourrit et nous relie les uns aux autres. Municipalité, entreprise, collectif, citadin, c'est ensemble que nous devons agir. Il ne tient qu'à nous, qu'à vous, de rendre nos villes plus belles.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Aujourd'hui, retour sur le ciné-débat autour du film documentaire de Manon Turina et François Marquès, La Belle Ville, proposé par l'association FestiPlanète dans le cadre du Ciné-Planète à Douai. Dernier invité pour ce ciné-débat, c'est Yves Picot. Il est enseignant-chercheur en écologie et conseiller municipal à la ville de Douai.
Yves, peut avoir une ville végétale sans avoir des feuilles sur le trottoir ?
Non, mais c'est une très bonne question parce qu'effectivement, la végétalisation des villes, c'est effectivement maintenant un objectif essentiel. Ça, on en a bien conscience, que ce soit pour les problématiques de chaleur urbaine, que ce soit pour gérer les eaux pluviales, pour la biodiversité, et puis pour le bien-être en ville, ça c'est clair. Mais effectivement, un arbre ne fait jamais consensus. C'est un petit peu problématique parce qu'un arbre, ça amène aussi un certain nombre de problèmes. Effectivement, des feuilles sur le sol, du miel à pucerons sur les voitures, etc. Mais c'est un travail d'acculturation. Il faut aussi accepter peut-être les petits problèmes, les petits défauts liés à la végétalisation parce qu'à côté de ça, l'enjeu est important et puis le gain est incommensurable par rapport aux petits problèmes que ça peut générer.
Alors, vous n'allez pas échapper à l'exercice de la fiche de police. L'âge et la formation, aujourd'hui, vous avez quel âge ?
56.
Votre formation ?
J'ai fait des études en biologie, puis en écologie, une thèse d'écologie, et maintenant je suis enseignant-chercheur en écologie à l'Université de Lille. Et puis, accessoirement, je suis conseiller municipal à la ville de Douai, chargé de la biodiversité et de l'adaptation de la ville au changement climatique.
Vous avez senti ce changement de conception de la ville et que l'écologie, l'écologue que vous êtes, est-ce que vous l'avez vu rentrer dans le souci des, on va dire, des urbains?
Alors, je ne l'ai pas vu rentrer parce que moi, je suis rentré dans la ville et j'ai constaté qu'il était déjà bien présent. Et ça fait, je pense que c'est le cas de Douai, mais c'est le cas de beaucoup de villes moyennes et de grandes villes, effectivement, parce que cette volonté de faire évoluer les choses, dans les services en tout cas, elle existe depuis beaucoup de temps avec des gens extrêmement compétents. On a évoqué rapidement l'absence peut-être de personnalité politique dans votre film, mais effectivement, je veux dire que l'évolution, la rapidité d'évolution va dépendre surtout de la volonté politique au départ, mais sur les services, là, on a des gens d'une très très grande compétence, et ça depuis quelques décennies quand même déjà. Et mais on continue à voir du changement, effectivement, avec de nouvelles générations qui arrivent, qui sont porteurs de nouvelles méthodes, de nouvelles... Moi, je suis très, très surpris de constater que tous nos jeunes chars d'émission sont hyper écolos. Enfin, c'est assez incroyable, avec déjà une bonne réflexion sur la problématique de la mobilité, sur la connaissance des lieux, de tout, finalement... les contraintes que, par exemple, les aléas climatiques vont exercer sur la ville, mais aussi avec une bonne réflexion sur l'acceptabilité, les problématiques sociales. Donc, je suis plutôt optimiste, moi, sur les compétences qui existent aujourd'hui au sein des services dans la plupart des villes de France.
Dans le film, il y a un méchant paradoxal, c'est-à-dire qu'on nous invite à ralentir et on nous dit, à côté, il y a une urgence.
Oui, oui. Le grand problème, enfin, à mon sens, mais ce n'est pas mon sens, je pense que c'est un constat qu'on fait tous, c'est qu'on a attendu beaucoup trop longtemps. On n'est même plus au pied du mur, on est dans le mur, hein, faut bien le reconnaître. Et que l'investissement, par exemple, qui est nécessaire, l'investissement financier qui est nécessaire pour aménager une ville, pour répondre aux problématiques des aléas climatiques, il est considérable. Et puis on connaît la situation économique actuelle à l'échelle mondiale. Effectivement, on manque de moyens, on manque de moyens financiers pour que toutes ces opérations qu'on a vues dans le film, hein, qui sont extrêmement intéressantes, puissent être menées sur de grandes échelles. Et ça, parce que malgré tout, quand on voit effectivement sur ces magnifiques bâtiments à Chicago, je pense que c'est à Chicago ou peut-être à Singapour, où cette végétalisation qui est magnifique sur les murs, c'est un investissement qui est important initial. Et effectivement, on a quelques difficultés maintenant à trouver les subsides pour faire ces investissements et faire ce travail d'adaptation de la ville.
Est-ce que c'est plus facile de dire aux gens on éteint les lumières parce que l'électricité ça coûte cher que quand on leur dit avant que ça ne coûtait trop cher, on l'éteint pour les chauves-souris?
En fait, ce qui est intéressant, et si on parle juste, allez, on reparle un petit peu de cette trame sombre qu'on a installée à Douai, en fait, c'est vertueux à tout point de vue. C'est-à-dire que c'est vertueux effectivement pour la biodiversité, parce que ça crée effectivement un corridor sombre qui permet le déplacement, pas seulement des chauves-souris, mais ça évite aussi que les petits oiseaux, quand ils nichent dans les arbres, soient gênés par la lumière nocturne. Ça permet aux insectes de boucler leur cycle de vie, aux plantes de se mettre en feuilles ou de fleurir au bon moment. Et ça a un impact également sur la santé humaine, puisqu'on sait que l'éclairage artificiel a un impact très, très négatif sur notre santé. Et puis, je dirais accessoirement, mais c'est pas accessoirement, ça a une grande valeur, c'est qu'effectivement, économiquement, c'est très intéressant parce qu'on fait des économies énergétiques tout à fait considérables. Donc c'est vertueux sur tous les points. Je vois pas pourquoi on nous a fait le reproche d'ailleurs de cette trame sombre à une époque.
La ville du futur, elle doit être verticale parce que le problème également de l'étalement urbain, c'est quelque chose, on peut faire une ville verticale et verte, ce qu'on nous montrait là. Ouais. C'est imaginable, ça?
C'est imaginable, mais j'ai beaucoup aimé le discours de l'architecte là, qui travaille sur la végétalisation des bâtiments, qui disait qu'on peut faire des bâtiments très vertueux, mais ça ne représentera que 5% finalement du bâti total. Et dans une ville comme la nôtre, mais comme dans beaucoup de villes anciennes, on va dire, la question se pose, c'est comment on adapte le bâti ancien? Et pour l'instant, ben, on ne sait pas tellement. Est-ce qu'on touche au bâti ancien, et en particulier au bâti qui a une certaine valeur historique ou culturelle? Donc là, l'architecte des bâtiments de France, il nous tombe dessus en disant « Oh là, attention, il y a effectivement respect de l'histoire, respect de notre culture, c'est essentiel. » Donc comment on va travailler? Comment on va isoler? Est-ce qu'on peut isoler un bâtiment historique par l'extérieur? Non, c'est pas possible. Est-ce qu'on l'isole par l'intérieur? Oui, mais ça réduit encore la taille des pièces. Donc on est face à des problématiques qui sont compliquées. Est-ce qu'on peut mettre des panneaux solaires sur les toitures en ville ancienne? Pas forcément, parce que ça nuit à l'esthétique globale de la ville. Mais en même temps, je vais être provocateur en disant « On vit une époque formidable, parce que ça va nous demander effectivement de faire preuve de beaucoup d'imagination et puis de faire un gros travail collectif entre les architectes, les historiens, les spécialistes de l'énergie, de la biodiversité, de la végétalisation, comment on travaille ensemble pour adapter une ville ancienne effectivement aux nouvelles contraintes climatiques, aux problèmes de disposition de ressources énergétiques, etc., etc.
Quand on inclut ça dans le projet avant qu'il naisse, quelle que soit la construction, ça coûte plus cher ou si ça coûte plus cher, on fera rapidement des économies?
Alors, enfin, c'est bien connu maintenant que ce serait moins cher de raser, douer et de reconstruire que d'aménager les bâtiments anciens. Enfin, ça, c'est... Ouais. Détruire un bâtiment et reconstruire à neuf avec des technologies nouvelles, par exemple, vous parliez effectivement de matériaux qui sont des biosourcés ou des choses comme ça, effectivement, ça coûte moins cher de casser et de reconstruire, et avec un bâtiment qui sera à haute valeur énergétique, même à haute valeur biodiversité. Mais c'est remettre en cause complètement, finalement, notre patrimoine historique, enfin, c'est peut-être pas une ville très jolie, finalement, qui sortira de ça.
Donc, pour que ça ne se fasse plus, c'est quoi ? Il faut interdire ce qu'on faisait avant dans les anciennes constructions pour imposer. C'est par l'imposition de nouvelles lois, de nouveaux, que ça va véritablement changer quand on ne pourra plus faire autrement. Et même si on construit une patinoire, devoir au moins la végétaliser un maximum.
Donc, on a effectivement la construction de cette grande patinoire, ben c'est effectivement une aberration, clairement. Comme un boulodrome géant, effectivement, c'est des choses un petit peu étranges qu'on a construites sur l'agglo. D'ailleurs, il y a un conseil d'agglo ce soir, ils vont évoquer le sujet.
Est-ce qu'on devrait, quelle que soit l'infrastructure, aujourd'hui, mettre des normes en obligeant et pour être sûr qu'on ne fasse plus comme avant. Sinon, on a l'impression qu'on continue comme si de rien n'était, que de temps en temps, pour se donner bonne conscience, on fait un truc par-ci, par-là.
Effectivement, il faut un cahier des charges très lourd sur le bâti nouveau. Ça, c'est clair, effectivement. On peut parler de végétalisation. On va parler aussi, par exemple, d'emprise au sol et de pourcentage de zones désimperméabilisées par rapport à la zone qui est construite, au nombre de places de parking, à la typologie des parkings qui soient filtrants au minimum, et la récupération des eaux pluviales. C'est des choses qu'il faut imposer, effectivement, dans le cahier des charges, qu'on essaye d'imposer, en tout cas localement. Malheureusement, effectivement, ça reste un bras de fer avec les promoteurs pour l'instant. Même s'il y a des normes qui sont déjà des normes un peu établies, un peu étatiques aujourd'hui, qui obligent effectivement à faire quand même des choses qui n'existaient pas il y a encore 10 ans, comme par exemple la récupération des matériaux après la destruction d'un site. Par exemple, ça aujourd'hui, c'est une obligation légale.
Et enfin, dernière question, une tiny forêt. Quel regard vous posez là-dessus ? Parce qu'on on l'a vu, c'est ces forêts qui arrivent comme ça, cœur de ville à Bruxelles, c'est pas loin, on est à peu près le même climat, je pense.
Alors, tiny forêt, c'est un peu
bon, il y a débat.
Il y a débat. Voilà, il y a un débat.
Oui, c'est pour ça que je pose la question, parce que ça n'a pas que des adeptes.
Ça n'a pas que des adeptes, parce que effectivement, déjà c'est cher à l'installation. Faut savoir, on a installé notre petite tiny forest, c'est quand même quelques dizaines de milliers d'euros pour 1000 mètres carrés. Alors on va faire une expérience à Douai, qui est de faire une tiny forest spontanée, c'est-à-dire que on a une tiny forest. Voilà, on l'a depuis, elle a été plantée cette année, cet hiver, et on va mettre à côté un petit exclos pour voir finalement comment la végétation reprend spontanément. Donc on va faire notre tiny forest, mais alors, je sais pas, je pensais qu'on aurait pu appeler ça je m'en friche. C'était une idée, c'est joli,
bien,
hein,
c'est pas bien, mal. Ouais.
Donc essayer de voir finalement par rapport à une tiny forest où on plante effectivement une très grande quantité d'arbres très denses, donc ça rend les forestiers un petit peu tristes parce qu'il y aura un peu de mortalité, il y aura même beaucoup de mortalité des jeunes arbres, mais c'est un cycle naturel qu'on met en place. On va essayer de voir finalement qu'est-ce qui pousse spontanément, et ce qui pousse spontanément sera probablement mieux adapté aux conditions climatiques locales, aux conditions de sol par exemple, que peut-être ce qu'on a importé pour faire la petite tiny forest. Voilà, c'est très discuté. Le problème des tiny forests, c'est qu'on a peu de recul, parce que je pense que la plus vieille tiny forest européenne, elle est néerlandaise, je crois qu'elle a 20 ans. C'est difficile d'évaluer finalement l'impact biodiversité. C'est un peu optimiste là, ce que disait la bruxelloise sur sa tiny forest, avec une quantité 100% de biodiversité en plus. Bon, c'est oui, quand on installe sur un sol qui vient d'être désimperméabilisé, il y a un gain énorme, évidemment, mais mettre des tiny forests un peu partout comme on peut le faire actuellement, le gain est peut-être... Voilà, il faut suivre l'affaire, en tout cas.
Puis après, nous, on a des espaces à regarder également évoluer, je pense notamment tous nos anciens terriers qui actuellement sont en cours de revégétalisation par eux-mêmes. Ouais. Et là aussi, on s'aperçoit de le phénomène de résilience qui peut être tout à fait intéressant, sans qu'il y ait forcément le fait d'aller creuser initialement quelque chose et planter quelque chose.
Radio Scarpe Sensé, la puce à l'oreille, Hervé Dujardin.
Dernière partie de ce ciné-débat consacré à la ville autour du documentaire de Manon Turina et François Marquès, La Belle Ville. Ciné-débat proposé par l'association FestiPlanète dans le cadre du Ciné-Planète à Douai. Dernière partie, évidemment, consacrée aux réactions et questions de la salle.
Question pratique. Qu'en est-il des gaz d'échappement et des microparticules et des répercussions sur les légumes et les fruits qui sont cultivés dans les villes?
Tu compléteras ma réponse s'il le faut, mais moi j'avais, en tout cas sur ce qui est des productions sur le toit, sur les toits, les particules fines ne montent pas. Donc ça, apparemment, ce ne serait pas forcément nocif. La deuxième chose, c'est clair que si on commence à produire au bord des routes, la question se pose. Après, c'est pour ça qu'il faut corréler aussi, je pense, tous ces sujets-là avec d'autres sujets de mobilité et dire, ben, si on passe à l'électrique déjà, alors pour ou contre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que l'électrique n'émet pas ces particules fines, donc on pourrait éventuellement produire sur les bords de route, mais on pourrait passer aussi au vélo, qui est encore mieux. Et troisième chose, je dirais, est-ce que les produits qu'on mange aujourd'hui ne sont pas déjà bourrés de pesticides et déjà très nocifs pour notre santé? C'est à comparer aussi, donc il y a encore plein d'autres sujets à coupler avec justement celui-ci. C'est pour ça qu'il faut réfléchir de manière systémique et pas que sur une solution. C'est vraiment une pluralité de solutions qui font la solution.
On a vu les limites hein, de la ville nourricière. Sa première vertu, finalement, Louis, c'est quoi? C'est de rappeler ce qu'est une saison, tant qu'il y en a encore qui existent.
Je pense que c'est bien dit dans le film. Moi, j'ai bien aimé quand il met sa main dans la terre. Là. Je pense que c'est ça aussi. Hein, c'est le fait de reconnecter avec le sol, reconnecter avec la terre. Et je pense que ça, c'est un gain, effectivement, en termes de bien-être et d'aménité. Enfin, c'est clair. J'avais un petit peu peur que le film soit naïf au départ, et pas du tout. Hein. Il y a effectivement beaucoup de pragmatisme. Et on parlait de ce point de bascule lorsque, finalement, on part sur une espèce d'idéal où cette ville nourricière, effectivement, est-ce qu'elle est possible? Pour certains, c'est oui. Et puis, finalement, on a cette vision beaucoup pragmatique qui nous dit, mais attention, hein, moi j'ai adoré quand il a dit, on va pas mettre des jardins sur les toits et des panneaux solaires dans les champs. Et il y a effectivement cette belle image finalement de connexion entre la ville et puis les terres agricoles. Un territoire comme le nôtre, c'est 70% de terres agricoles autour de la ville. Donc finalement, ça fait pas tellement sens de créer cette ville nourricière puisque il y a des agriculteurs, il y a 70% de terres agricoles autour de la ville. Finalement, on n'est pas une mégapole, on n'est pas loin des terres agricoles. Donc finalement, est-ce que ça fait sens de réfléchir à cette ville nourricière? À mon sens, non. Mais par contre, en termes de contact avec la terre, en termes de revoir effectivement le cycle des saisons, de voir comment on produit un fruit, ça, c'est effectivement quelque chose qui est très productif. Et sur la pollution et les légumes, c'est vrai qu'il y a... On parle beaucoup de l'impact sur ce qu'on appelle les légumes feuilles, quoi, les salades, qui vont effectivement recevoir une partie des poussières urbaines. Il y a moins de problèmes sur les légumes racines, même si là, c'est la pollution du sol qui peut jouer. Mais par contre, voilà, les tomates, il suffit de les laver et passer sous l'eau. Puis bon, elles sont comestibles. Comme tu le dis, effectivement, par contre, lorsqu'on va acheter en non bio, effectivement, dans un supermarché, je pense que là, il n'y a pas photo de toute façon.
Oui, il y a un passage qui m'a interpellé là, dans le film. C'est à Milan, quand on voit les déchets organiques qui sont récupérés pour faire du compost. Moi, je suis allé en Italie aussi, à l'Aspezia, ils faisaient aussi le même traitement, on avait des poubelles à part. Et on voit ensuite que ce compost est étalé sur les champs. Mais qu'en est-il de l'agriculture biologique? On ne peut plus, ça ne peut pas être dédié, être fourni à des agriculteurs bio, parce que dans ces composts, on y trouve de tout. Quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne solution?
Alors, je dirais que, encore une fois, en fait, les sujets, il faut les traiter de manière séparée, à la fois en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on trouve des cochonneries dans notre compost, mais pourquoi? Si on réfléchit à comment on produit mieux notre alimentation, notre compost, il sera pur. Aujourd'hui, c'est sûr que si on compose du McDo, ça va pas être terrible. Si on réfléchit à notre système agricole et comment on produit, en fait, c'est lié, en fait, c'est une boucle. Donc à partir du moment où on produit mieux, notre compost sera mieux et il pourra éventuellement, à l'avenir, être utilisé pour l'agriculture biologique. Donc j'ai un peu cette réponse-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, après, je sais pas, je suis pas forcément hyper expert sur le sujet, mais si c'est du compostage industriel, quand même, on monte à des grosses températures qui sont censées tuer toutes ces cochonneries. Alors aujourd'hui, peut-être que la loi ne permet pas d'utiliser ce compost-là de manière, pour l'agriculture biologique, mais c'est peut-être à repenser en fonction du processus utilisé.
Tu en fais quoi, toi, le compost à Paluel, Thomas, dis-moi.
Nous, on l'utilise pour le jardin, mais en fait, on met on triple ou on quadruple les temps de compostage, en fait,
parce qu'en fait, on, par rapport à, aux toilettes sèches, je parle. Hein. Ouais. Par rapport aux toilettes sèches, parce qu'en fait, si vous le faites pour vous, ben, vous savez ce que vous ingérez, donc il n'y a pas de souci. Mais nous, par rapport au public, on ne sait pas s'ils prennent des médicaments ou quoi. Donc, en fait, on triple au minimum les délais. Et en fait, on tourne, en fait, on fait des rotations. Et après, on le réutilise dans le jardin. Après, on a aussi des animaux. Donc, du coup, on a énormément de quantité de... On est en train de réfléchir à peut-être voir de travailler avec des partenaires pour diffuser ça à ceux qui en ont besoin, de voir ce qui est possible de faire. Parce qu'en fait, on en a 10 fois de trop pour nous. Mais ouais.
Ouais. Non, c'est à propos du compostage, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup, mais en janvier 2024... les biodéchets seront obligatoirement compostés. Alors peut-être sera une obligation sans sanction, mais j'ai pas l'impression qu'on y soit prêt à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau politique. J'ai interpellé Douaisy Aglo sur cette question-là, puisque c'est eux qui sont chargés de l'assainissement. J'ai pas eu de réponse. J'ai même cru que je disais une grosse bêtise, parce que comme j'avais pas de réponse, je me suis dit j'ai dû me tromper. D'année, ça doit pas être en 2024, c'est bientôt, hein, 2024. Et au niveau des habitants, quand on a des stands sur les manifestations en tant qu'association écologique, on est amené à parler de jardinage, etc., et de compostage. Et il y a une énorme réticence, et même des gens qui veulent composter, qui posent beaucoup de questions parce qu'ils ont peur d'avoir des rats, des nuisibles, etc., des problèmes d'odeur, d'hygiène, etc. Donc il y a à la fois composter dans son jardin. C'est pas encore entré dans les mœurs, en tout cas dans le Nord, enfin en tout cas ici, mais peut-être je me trompe, hein. J'espère. Et puis sur le plan politique, l'arrivée du tri des biodéchets me semble pas du tout préparée.
Ouais, pour rebondir, la loi exactement, elle dit qu'il faut proposer une solution de collecte séparée des biodéchets. Alors l'obligation, elle n'est pas encore dans la revalorisation. Mais déjà, il faut apporter une solution de collecte séparée. Alors ça passe par des bornes d'apport collectif ou ça passe par de la collecte en porte-à-porte avec des camions peut-être électriques ou du moins mobilité douce. Mais en tout cas, voilà, moi je suis d'accord avec vous, je n'ai pas l'impression qu'ils sont très pressés. Ça arrive doucement. Alors j'ai vu qu'il y avait un acteur, je ne sais pas si vous connaissez J.C. Doko, qui commence à proposer des solutions à Lyon de bornes où on pourrait apporter nos biodéchets, justement, qui permettraient qu'il n'y ait pas d'odeur, qu'il n'y ait pas de rats. Donc quelque chose d'assez bien fait pour justement pallier à tous ces freins-là.
Question. Quand tu as été dans ces grandes villes, ces mégalopoles, à la rencontre des initiatives qui se montent plus, parfois, à part Mexico, où on est, mais à la hauteur d'un quartier, est-ce que ça ne génère pas une gentrification, en quelque sorte, de ce quartier, une boboisation. Est-ce qu'il y a encore de la mixité sociale quand on rentre tout ça? Ou alors, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ça influence, justement, sur qui y vit?
Complètement. Complètement, l'exemple... après, le sujet, enfin, tout le monde est quand même sensibilisé à ces sujets-là, mais je suis d'accord qu'en fait, le problème, c'est que ces quartiers qui deviennent végétalisés, eh bien, en fait, déjà, il y a une notion sociale, par exemple... À Mexico City, là, on a vécu dans un quartier 500 000 habitants, c'est Toulouse.
Ouais.
C'était tout vert, magnifique, on dirait une forêt urbaine, c'est incroyable, sauf que c'est un quartier de riches. Et donc en fait, au niveau des loyers, tous les loyers grimpent, et donc ça crée un peu ce phénomène-là comme vous le disiez, de boboification, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais malheureusement, il y a un vrai delta aussi à réfléchir sur la partie, le côté social, le côté environnemental. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il y a la transition écologique, elle est aussi sociale. Et donc, il va falloir aussi trouver des solutions pour garder les gens dans des quartiers et créer cette mixité, créer ce dialogue aussi.
Voilà, les enjeux sont énormes, sont multiples. Ce qui explique peut-être que certains quittent la ville pour aller à la campagne parce que ça devient trop cher de vivre en ville en adéquation avec ces idées.
Je ne dirais pas qu'ils vont à la campagne, mais en périphérie, oui. Ils sont repoussés de plus en plus.
Pas l'UL, on est déjà à la campagne, là. On est en périphérie.
Ouais, mais même on voit les prix qui ont pris facilement 20% en 3 ans, ouais, depuis le Covid. Ouais, c'est de plus en plus demandé. C'est assez fou quand même. Hein. Je sais pas pourquoi. S'il fuit, bah ouais, c'est des prises de conscience du cadre de vie, je pense. Et les gens veulent aspirer à autre chose.
On l'a en tête quand on travaille, monsieur l'écologue, ça, sur. Parce qu'on nous parle des petites bêtes, c'est bien, hein. Mais nous aussi, on est des petites bêtes à notre hauteur. On y pense également, ça.
Ce qu'on appelle l'éco-gentrification, c'est un nouveau terme, effectivement. Ouais. Ben y a un exemple qui est bien connu, qui est celui du quartier des Batignolles à Paris, qui est devenu un très bel éco-quartier. Et je crois que les loyers ont augmenté de 25% en l'espace de 5 ans. C'est assez cohérent, effectivement. Le cadre de vie s'améliore, on passe sur d'autres populations, les magasins évoluent et tout ça. Donc, effectivement, je pense que la végétalisation doit s'accompagner d'une réflexion avec les bailleurs sociaux, avec effectivement le fait que cette végétalisation de la vie, elle doit profiter à tout le monde. Et ne doit pas entraîner effectivement une évolution des populations. C'est quelque chose dont on a conscience. Après, comment gérer ça, je ne sais pas.
Une dernière courte intervention, question. À propos le prix de l'immobilier par rapport à la nature, moi je pense qu'il y a toujours eu un plus, par exemple, si vous avez des fenêtres qui donnent sur un parc public. Pas oublier que les parcs publics, c'est quelque chose d'important dans la vie de la ville. Deuxièmement, la gentrification des quartiers dans les grandes villes s'est opérée avant la mode écolo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a... Ça remonte à 30 ans. Et après, les couches moyennes, qui sont les couches les plus voyageuses, elles sont aussi celles qui sont les plus écolos chez elles. C'est toujours marrant parce qu'ils ne font jamais le rapport entre leur pollution pour leur déplacement et leur pollution locale. Enfin, ça, c'est un aspect un peu polémique. Et moi, ce que je crois aussi, là, ça se passe beaucoup sur la réparation, je dirais, parce qu'on a des villes complètement monstrueuses, Dieu merci. Enfin, j'étais heureux d'apprendre quand même que la pollution de l'air tuait plus que les crimes à Mexico. Je me dis quand même, ils ont de la marge, donc c'est pas grave. Mais là, on est sur des grosses villes déshumanisées, parce que c'est pas des villes qui ont été choisies, qui ont choisi leur urbanisme, en fait. Sauf, enfin, je pense à Mexico, etc. L'urbanisme, c'est fait de briques et de broc, à mon sens, avec des quartiers de tôle, etc., des zones. Bon, passons. Moi, je crois aussi qu'il faut aussi passer, vraiment penser à l'éco-conception. Et par exemple, j'étais frappé lorsqu'on avait suivi un projet concernant un quartier où il fallait végétaliser un espace qui était un espace près d'un lieu entre un centre social. Bon, c'était au faubourg des Kerchins, au faubourg des Kerchins, c'est le centre social, etc. Donc, au pavillon roux, quand il fallait réfléchir à ce qu'on voulait faire, l'aspect, je dirais, travail sur la nature, travail sur le caractère service que pourrait rendre cet espace à l'atmosphère, etc., était peu pris en compte. C'était toujours les usages qui s'imposaient. Alors, il y a les usages lourdingues, il y a les pompiers. Les pompiers, il leur faut plus de place qu'ils ne jamais n'auront. Il y a les gens qui viennent apporter leur matériel d'enregistrement, et donc ils ont besoin de se garer juste devant. Et quand on regarde, il ne faut que des voiries quand il y a des projets comme ça. Il y a un riverain qui a besoin d'un truc pour amener sa voiture à son garage. Donc, il n'y a que des voiries. Et là, il faut vraiment maintenant qu'on pense aménagement à partir du prisme qui est celui du paysager, du jardinier. Dernier petit coup d'épingle, quand même, il faut que je fasse. Moi, j'ai été frappé du fait qu'à Douai, on a eu la chance de découvrir un puits du XVIe siècle. Et il y en a quand même un certain nombre à Douai à l'époque. Mais donc là, celui-là avait été couvert parce que nos militaires faisaient leurs opérations, leurs grandes manœuvres sur la place d'Armes, qui porte bien son nom. Et puis, on l'a trouvé et immédiatement, flork, on a fichu un bouchon de béton dessus pour préserver la ressource en eau. Attention, sachant, je passe sur le discours en ce moment contextuel avec Macron, etc., sur l'eau. Trop à dire. Mais deuxièmement, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a planté 3 arbres auxquels je souhaite une bonne chance. Enfin, personnellement, je ne leur garantis pas un avenir très prospère. Et on a fait à côté une fosse margelle qui est à côté du puits pour rappeler que c'était une margelle. On l'a fait en granit. Alors, sur la place d'Armes, qui est déjà en granit, et vous savez pourquoi ? Parce qu'on voulait y faire des spectacles. C'était la mode. Et ben, vous savez maintenant qu'on a de l'eau sous le granit. Alors, moi, je trouve que là, franchement, si on ne se sert pas au niveau, alors, en temps réel, on n'a pas le droit de laisser passer les chances, du symbolique de l'eau et montrer l'eau aux gens qui est à 6 mètres. 6 mètres de l'eau, ça veut dire que quoi ? Ben, ce que je bois, il est sous mes pieds, quoi. Si on ne profite pas de cette chance-là quand on l'a, et ça n'arrive pas tous les 15 jours, moi, je trouve qu'on fait une grave erreur. Je ne comprends pas que la ville ait pu faire cette erreur-là. Et je trouve qu'il faudrait... Bon, il va y avoir un panneau d'explication. Un panneau, ça ne fait pas qu'on voit l'eau.
Enfin, moi, je trouve qu'on a perdu une chance, là. Excusez-moi. De...
Et c'était au cinéma Majestic que ça se passait autour du film documentaire de Manon Turina et François Marquès, La Belle Ville, proposé par l'association FestiPlanète dans le cadre du CinéPlanète. Retrouvez toutes les animations de l'association FestiPlanète sur le site internet festiplanète.fr.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.